Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, que devons-nous le plus admirer en cette fête de l'Annonciation? Sera-ce la très sainte Vierge Marie se donnant totalement au plan de Dieu sur elle et déclenchant ainsi le salut du monde par son fiat? Sera-ce le Verbe de Dieu s'élançant de son trône du ciel pour prendre une nature humaine dans le sein de la très sainte Vierge, afin de s'offrir en sacrifice pour le salut du monde? Arrêtons-nous aujourd'hui au mystère qui est la cause, la source des deux précédents, l'amour de la Sainte Trinité pour les hommes. C'est en effet ce mystère d'amour que l'archange Gabriel a voulu mettre en évidence lorsqu'il a annoncé à la Vierge Marie que l'Esprit Saint viendrait en elle. L'incarnation est une sortie de Dieu. Or, tout ce qui se passe à l'extérieur de Dieu est une œuvre des trois personnes de la Sainte Trinité. Si l'ange n'a mentionné que le Saint-Esprit, c'est parce que dans la Trinité, c'est au Saint-Esprit qu'est attribué l'amour, puisqu'il est l'amour du Père et du Fils. L'ange est donc venu annoncer à Notre-Dame que l'incarnation serait l'œuvre de l'amour de Dieu pour les hommes, l'œuvre de la bonté infinie de Dieu. Mais comme tout ce qui se passe à l'extérieur de Dieu est une œuvre des trois personnes, il faut nous arrêter aussi sur l'amour de Dieu le Père et l'amour de Dieu le Fils dans le mystère de l'incarnation. La charité du Père et du Fils pour le genre humain n'a pas été moindre que celle du Saint-Esprit, puisque l'amour de Dieu pour nous est un amour des trois. Charité du Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, dit saint Jean. Et il nous l'a donné pour qu'il répare nos péchés à notre place, ainsi que le dit saint Paul aux Romains. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Charité du Fils. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit notre Seigneur lui-même. Mais une question se pose, bien sûr. Qu'est-ce que l'homme pour que vous le regardiez comme quelque chose de grand, et comment daignez-vous appliquer votre cœur sur lui, s'écrie le saint homme Job en s'adressant à Dieu. Cet amour divin pour les hommes est d'ailleurs d'autant plus étonnant et admirable qu'il a eu pour objet une humanité qui s'était dégradée par le péché. Ce qui fait éclater davantage l'amour de Dieu envers nous, dit saint Paul, c'est qu'alors même que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Pour comprendre la raison de cet amour, il faut nous élever à un niveau supérieur. De l'amour de Dieu le Père et de Dieu le Fils pour les hommes, montons un cran plus haut, en considérant l'amour de Dieu le Père pour son Fils incarné, Jésus-Christ, et l'amour de Jésus-Christ pour son Père. C'est que Dieu n'avait permis le péché de nos premiers parents que pour réaliser un plan infiniment supérieur à celui de la première création. L'incarnation d'un Dieu qui, par l'union de sa nature humaine à la personne divine, serait le chef infiniment parfait d'une humanité nouvelle, dont il ferait la conquête par sa mort sur la croix, et qu'il s'unirait en ne formant avec eux qu'un seul corps dont il serait la tête, et dont les membres que nous sommes vivraient de sa vie divine. Tel était le plan grandiose de la Sainte Trinité, du moins pour les hommes qui accepteraient d'entrer dans ce plan. Citons ici un texte magnifique des Carmes de Salamanque commentant saint Thomas d'Aquin. C'eût été une sorte de cruauté de permettre le mal dans la seule intention de le réparer ensuite et de nous ramener à notre condition première. Mais ce n'est pas le cas lorsque la permission d'un mal est ordonnée à quelque très grand bien qui passe de loin ce mal et qui l'efface. Or, c'est ici le cas. Si Dieu a permis la catastrophe humaine, ce n'est point pour se borner à y porter remède. C'est en prévision de la gloire du Christ rédempteur, dont la dignité dépasse de beaucoup la malice de la chute permise. C'est enfin pour le plus grand bien de l'humanité elle-même qui reçoit par le sang du Christ une grâce plus abondante et une suprême noblesse. Fin de citation des Carmes de Salamanque. En vertu de l'incarnation, dit le père Calmel, dominicain, il y a donc plus de bien et de sainteté devant Dieu qu'il n'en existait par l'innocence du premier homme avant son péché. Beaucoup plus de gloire au plus haut des cieux et de paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Contemplons quelques instants le mystère du Verbe incarné. Dès que la très sainte Vierge eut donné son consentement à la demande de l'ange, au même instant, le corps et l'âme de notre Seigneur furent formés en son sein par le Saint-Esprit et unis à la personne du Verbe par l'union que l'on appelle hypostatique, union des natures humaines et divines, sans confusion ni changement, sans division ni séparation, dit le Concile de Chalcédoine. Union par laquelle tous les actes de ce corps et de cette âme seront divins, puisqu'en notre Seigneur il n'y a pas de personne humaine, mais une unique personne divine responsable de toute l'activité de ce corps et de cette âme. Cette union de l'âme humaine de notre Seigneur à une personne divine produisit en même temps dans cette âme une plénitude de grâce sanctifiante, telle que notre Seigneur deviendrait la source de toutes les grâces que nous recevons. On parle ici de grâce capitale, du latin caput qui signifie la tête, parce que c'est de notre Seigneur qui est la tête du corps mystique que nous, qui sommes les membres, recevons toute grâce. C'est donc de cette grâce capitale que vient tout salut. Il n'y a de salut en aucun autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce sanctifiante amenait dans l'âme de notre Seigneur une plénitude unique des vertus, des dons, des béatitudes, des fruits du Saint-Esprit. Unie à la personne du Verbe, l'âme de notre Seigneur voyait en même temps son Père face à face dans ce qu'on appelle la vision béatifique. Tout en étant sur terre, notre Seigneur était donc au ciel, non seulement par sa divinité, mais aussi dans la mesure où son âme humaine jouissait de la vision du ciel, qu'il aura sans interruption durant toute son existence, même lorsqu'il sera sur la croix, ce qui ne diminuera en rien ses souffrances. La joie de la partie supérieure de son âme ne sera pas diminuée par ses douleurs, et ses douleurs extrêmes n'altéreront en rien le bonheur dont était inondée en permanence la fine pointe de son âme. Grand mystère qui était un miracle. Pour être complet, il faudrait aussi parler de ce qu'on peut appeler les grâces gratuitement données, accordées à l'âme de notre Seigneur en plus de la grâce sanctifiante et dont il avait besoin pour remplir sa mission. Grâce des guérisons, don d'opérer des miracles, grâce du discernement des esprits, don des langues et surtout don de prophétie. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, énumère ces grâces gratuites qu'on rencontrait chez certains membres de l'Église dans les premiers temps et qui, par la suite, ont été le privilège de certains saints. Mais chez notre Seigneur, là aussi, elles furent en plénitude. Combien l'amour de Dieu le Père ne devait-il pas s'enflammer pour son Fils incarné, chef-d'œuvre de la création ? Mais son Fils s'était incarné à cause du péché. Un simple acte intérieur de charité du Verbe fait chair dans le sein de la Vierge Marie aurait suffi à réparer tous les désordres de l'humanité, puisque le moindre de ses actes avait une valeur infinie. Mais s'il en avait été ainsi, nous n'aurions pas compris la gravité du péché. Nous le comprenons encore si peu, après toutes les souffrances qu'a supportées pour nous notre Sauveur. Dieu le Père a donc été jusqu'aux exigences extrêmes de sa justice, et il n'a pas reculé devant la mort douloureuse de son Fils. Le pape Benoît XVI, se faisant l'écho de la prédication conciliaire actuelle, critiquait, disait-il, certains textes de dévotion semblant suggérer que la foi chrétienne en la croix se représente un Dieu dont la justice inexorable aurait réclamé le sacrifice de son propre Fils. Et il ajoutait, on se détourne avec horreur d'une justice dont la sombre colère enlève toute crédibilité au message de l'amour. Outre qu'il s'oppose par là à la doctrine constante de l'Église depuis les apôtres, c'est bien mal la comprendre, que la justice s'oppose à l'amour. Ce ne fut pas par plaisir de punir que Dieu exigea un tel sacrifice pour réparer le péché. Comme le dit le père Garrigou-Lagrange, Dieu montre ici jusqu'où va son amour du bien et sa sainte haine du mal qui n'est que l'envers de l'amour. De la même manière d'ailleurs que l'on reconnaît notre amour de la vérité à la haine que nous avons pour l'erreur. C'est parallèle. Ce ne fut pas non plus par un moindre amour pour son Fils, d'ailleurs impossible. En l'envoyant à la mort glorieuse de la croix, il lui a demandé un acte d'amour qui lui plaise plus que tous les péchés réunis ne peuvent lui déplaire. Et de tels exemples se rencontrent même parmi les hommes, toute proportion gardée, bien sûr. Le père Garrigou-Lagrange signale que dans une des dernières guerres au Japon, un général choisit parmi ses lieutenants son propre fils, et il lui demanda d'aller mourir pour le salut de l'armée. Le jeune homme comprit immédiatement de quel amour son père l'aimait et il accepta d'aller se sacrifier. Ce n'est donc pas seulement en enrichissant l'humanité de notre Seigneur de tous les dons de la nature et de la grâce que Dieu le Père a montré son amour pour son Fils incarné, c'est en le prédestinant à la gloire de la rédemption qui lui mériterait de recevoir un nom qui est au-dessus de tout nom, comme nous le chanterons pendant la Semaine Sainte. De quel amour pour son Père devait alors brûler en retour l'âme humaine de notre Seigneur? Dès le premier instant de l'incarnation, Jésus brûlait du désir d'accomplir jusqu'au bout le plan de son Père. Et cela revient à chaque page de l'Évangile. Je dois être baptisé d'un baptême, et combien je me sens pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Et la veille de sa passion, le prince de ce monde va venir, quoiqu'il n'ait rien en moi qui lui appartienne. Mais c'est afin que le monde connaisse que j'aime mon Père et que je fais ce que mon Père m'a ordonné. Ceci explique cette phrase de saint Paul qui peut surprendre au premier abord. Jésus a souffert la croix avec une grande joie en méprisant la honte et l'ignominie. Proprio sibi gaudio sustinuit crucem. On comprend maintenant que c'est de l'amour mutuel du Père pour le Fils et du Fils pour le Père que découle leur amour pour nous. Mais pour que ce plan ait ses effets de salut en chacun de nous, il y faut notre consentement. En cette fête de l'Annonciation, la Sainte Église met devant nos yeux la Vierge de Nazareth, répondant à la parole de l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté. » La leçon est si importante que la coutume s'est introduite dans la chrétienté de rappeler cette scène de l'Annonciation trois fois par jour par la récitation de l'Angélus. Alors demandons à la très sainte Vierge en ce jour de sa fête la grâce de la suivre dans cette voie de conformité à la volonté divine qui, de la croix acceptée, conduit infailliblement à la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.